France Inter.
L'écrivain, dramaturge et éditeur d'art à l'œuvre multiprimée Éric Reinhart est notamment l'auteur des romans Le moral des ménages, Cendrillon, Le système Victoria, L'amour et les forêts, adaptés au cinéma par Valérie Donzelli, Comédie française ou encore Sarah Suzanne et l'écrivain. Aimant flirter avec les différents champs artistiques, il a signé des collaborations avec des chanteurs, musiciens ou danseuses avec lesquels il a adapté pour la scène plusieurs de ses romans. Pour le théâtre, il a écrit pour la Comédie française, rédigé le livret du ballet d'Angelin après le Jokage, Siddhartha pour l'Opéra Bastille ou encore conçu Élisabeth ou l'Équité au théâtre du Rond-Point. Il a coécrit le scénario du long-métrage Gladys, réalisé par le dramaturge et chorégraphe Pascal Rambert, et a lui-même réalisé un court-métrage interprété par Marie-Agnès Gillot intitulé « Je vous emmène ». Rejoignant la tribu d'Alina Gurdiel qui règne sur la collection Manuit au musée, il relate la sienne à la Galerie Borghese de Rome et sa tentative d'approche de l'hermaphrodite endormie du Bernin dans l'ouvrage L'Imparfait, tout juste paru chez Stock. Notre invité est également artiste associé à la Maison des Arts de Créteil depuis septembre 2025. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Éric Reinhart.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Alors, ce n'est pas la dernière chose qui m'a enthousiasmé, mais c'est la chose qui, ces derniers temps, m'a le plus enthousiasmé. Ça remonte au mois de novembre, je crois. C'est Musée d'Uras de Julien Gosselin au Théâtre de l'Odéon. 10 heures de spectacle d'une intensité absolument inouïe. Porté par le talent incroyable de metteur en scène et de concepteur de Julien Gosselin, mais aussi et peut-être surtout par une troupe de jeunes comédiennes et comédiens de l'école donc du Conservatoire National des Arts Dramatiques de Paris. Ça fait un peu peur, 10 heures de spectacle. Je suis un grand fan de Gosselin, je vois tous ces spectacles depuis Les Particules élémentaires. Donc j'avais vu 1666 au Festival d'Avignon, 9 heures je crois, puis une œuvre aussi longue adaptée de Don de Lillo.
Oui.
Et là, j'avais un peu peur et c'est passé à une vitesse incroyable. Et surtout, il revisite, il réactualise, il rend éminemment contemporaine sur le plateau, porté par des jeunes, la langue, la pensée et l'univers de Duras, rendant caduque presque, c'est ce que je me suis dit, et c'est ce que j'ai ressenti en le vivant, tous les derniers spectacles que j'avais vus tirés de Duras, La Mente Anglaise ou La Maladie de la Mort. Par exemple, La Maladie de la Mort, qui est un texte qui est souvent mal mis en scène, je trouve. Quand il est mis en scène, on ne comprend pas très bien où Duras veut en venir, alors que le texte est assez limpide. Et là, c'est une jeune femme qui est assise sur un fauteuil, les mains posées sur les genoux, une jeune femme issue de la diversité. Et elle balance ce texte avec une intensité, ça vient du ventre. Et soudain, j'ai vu le texte et les images du texte de Duras comme je ne les avais jamais vues, y compris quand elles sont mises en scène par de grands metteurs en scène, comme Cathy Mitchell, que j'avais vue au Bouffe du Nord, avec des vidéos, tout ça, des images. Et là, les images, elles passaient par le corps de cette comédienne, par sa posture dans son fauteuil, par l'énergie qui est de son corps. Voilà. Et donc, pendant 10 heures, les pièces se succèdent comme ça. Il traverse chacune de ses œuvres extrêmement vite, au pas de charge, avec une espèce de profusion de sens, de sensation, qui, moi, m'a bouleversé. Et d'ailleurs, ce spectacle a eu beaucoup de succès. Les gens ont adoré. Il y avait des files d'attente pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose qui m'a émerveillé.
Ça a l'air absolument fabuleux. Est-ce que vous aviez un sandwich ?
Il y avait la possibilité, pendant ces 10 heures, de se sustenter.
La possibilité d'un sandwich.
Mais voilà. Mais je le dis parce que moi, je suis un grand amateur de spectacles vivants et on a la chance d'avoir en France une vraie et grande vitalité avec Fiaménard, Pascal Rambert, Mohamed El-Khatib, Vima Laponce, le spectacle Onda Romance à l'Odéon était absolument génial. Et voilà, et c'est bien de le dire, puisqu'il y a beaucoup de grincheux qui s'expriment sur le fait que dans le service public, que ce soit à la télévision, à la radio, mais aussi dans les arts, il ne se passe rien, c'est du clientélisme, et ça s'adresse à... c'est de l'entre-soi, et c'est faux, quoi. Il suffisait d'aller à l'Odéon voir Musée du Race ou Onda Romance pour voir que c'est pas du tout de l'entre-soi, et que là, il y a de la pensée qui circule, de la parole, et qu'il y a une urgence, et que c'est beau, et de la beauté, et on a besoin de cette beauté, de cette force que nous donnent parfois les artistes.
Merci beaucoup pour cet enthousiasme. Je ne pourrais jamais en vouloir à quelqu'un qui défend furieusement le service public. Je vous rejoins. Vous décrivez comme un être à la fois romantique, idéaliste et sarcastique. Ça se reflète dans votre écriture, mais est-ce que l'une de ces caractéristiques prend le dessus ?
Non, je pense que c'est un équilibre. Je pense que l'idéaliste déçu ou froissé se transforme instantanément en ironiste. D'ailleurs, il y a un écrivain que j'adore qui est Villiers-de-l'Isle-d'Adam, un écrivain symboliste de la fin du 19e siècle.
Vous aviez mis un de ses contes dans un de vos livres.
Voilà, dans L'amour et la forêt, j'avais inclus une nouvelle entière de Villiers-de-l'Isle-d'Adam. C'était comme un rêve que faisait Bénédicte Ombredane après avoir avalé une douzaine de Xanax. Et simplement, à un moment, au lieu qu'il y ait elle qui apparaît, j'avais remplacé un « L » du texte de Villiers-de-l'Isle-d'Adam par Bénédicte Ombredane. C'est tout, c'était ma seule intervention. Mais c'était ce texte de Villiers serti dans L'amour et les forêts. Et en exergue d'un de ses livres, il dédie, je ne sais plus quel livre c'est, « Au rêveur, au railleur ».« Au rêveur, au railleur ». Et je pense qu'il n'y a pas meilleur railleur que les rêveurs et meilleur rêveur que les railleurs.
Prenez-vous toujours du Xanax ? Parce que vous en parlez dans le récit de votre nuit au musée qu'on abordera dans quelques instants. Et évidemment, en tant que grande anxieuse qui a quelques béquilles, ça me parle.
J'ai toujours du Xanax avec moi. J'évite d'en prendre. Mais il faut, quand on en a besoin, il faut y avoir... il ne faut pas hésiter à en avoir recours. Je n'ai pas pris de Xanax avant de venir vous voir, Eva.
J'espère que oui, que je n'inspire pas une telle anxiété.
Non, en revanche, le direct sur France Inter le pourrait. Mais il est vrai que...
Et pas moi. Pardon, allez-y.
Il est vrai que au moment où les portes de la Galleria Borghese se sont refermées sur moi, avec cette longue nuit à vivre, pleine d'incertitudes, une angoisse m'a saisi et j'ai eu recours à un Xanax. Donc ça m'arrive, oui.
Est-ce que vous êtes d'un tempérament anxieux ? Parce que je crois que votre mère était anxieuse, votre père était pour vous synonyme d'échec et vous avez pris votre oncle comme modèle pour vous construire contre votre père. On se construit toujours avec ou contre ses parents.
Alors, du plus loin que je me souvienne, je suis angoissé. J'étais un enfant extrêmement anxieux, très angoissé. Et j'ai grandi avec ça. J'ai vu mes parents très malmenés par la vie, en particulier mon père, qui était vraiment brutalisé par le monde du travail, qui avait beaucoup d'ambition, qui souhaitait réussir. En plus, il se disait de droite, alors bon... il avait comme idéaux des personnes qui s'enrichissaient par leurs affaires en créant leurs entreprises.
Il était dans l'informatique.
Et donc il a créé une entreprise qui ne marchait pas très bien et qui a fait faillite. Et je voyais ma mère qui ne travaillait pas à l'époque. Après, elle est devenue la comptable de cette entreprise et je voyais bien qu'elle souffrait de ces échecs répéter que devait affronter mon père. Et moi, étant le témoin de cela, c'est vrai que j'ai conçu, à partir de ça, une forme de terreur du monde réel, du monde des adultes. Je savais qu'une fois mon bac en poche et que je m'élancerais dans la vie, eh bien, il y aurait beaucoup de coups à prendre et que le monde était un lieu de violence, d'humiliation. Et cette angoisse-là, j'ai toujours voulu la déjouer. C'est-à-dire que je ne voulais pas être comme ma mère, je ne voulais pas me laisser sombrer. Donc j'ai toujours vécu dans une forme d'écart entre cette angoisse qui m'est constitutive. Elle n'est pas seulement circonstancielle liée aux difficultés de mon père, elle est aussi liée à mon tempérament, parce que quand j'étais tout jeune et que je me réveillais la nuit pour vérifier que j'avais fait mes devoirs ou que mon cartable était rempli ou quand je faisais des crises de somnambulisme, ça c'était vraiment constitutif de ma personne. Mais j'ai toujours refusé de me laisser dominer par cette angoisse et par cette mélancolie, et j'ai toujours aspiré à la lumière, à une forme de joie, de bonheur, d'accomplissement. Et ça, je l'ai trouvé dans l'écriture et dans l'amour. Et je dirais que je suis sans cesse dans cette tension vers une forme d'allégresse et d'harmonie.
Votre épouse a traversé la maladie. Vous avez écrit dessus. Vous dites que de cette expérience, vous reste un point incompressible d'inconsolabilité. Et là, justement, c'est sur ça que j'aimerais vous interroger. Où en êtes-vous de la mélancolie que vous avez citée, de la peur et du somnambulisme?
Alors, le somnambulisme... je n'ai plus fait de crise de somnambulisme depuis longtemps. Non, mais la mélancolie, elle est toujours là. Elle m'est constitutive. Et je la conjure par les livres que j'écris, par la vie que je mène avec ma femme, mes enfants, mes amis et toute la beauté dont je me nourris. Il est vrai que je dis souvent que il m'aurait été difficile d'affronter le réel sans me protéger par l'écriture des livres que j'élabore. Ça, c'est vraiment évident. Entre deux livres, une fois que la délectation du dernier livre écrit est publié et puis accompagné dans les librairies et les festivals s'éteint, et à chaque fois, j'en profite parce que je me dis que c'est peut-être le dernier livre que je publierai jamais. Parce qu'à chaque fois, c'est comme un petit miracle. À chaque fois que je termine un livre, je me dis, mais comment t'as fait? C'est miraculeux. Je ne me l'explique pas. Avant de commencer le nouveau, il y a une période de latence comme ça. Même si souvent mes livres se tuilent et que j'ai quand même un peu déjà l'idée et l'intuition du prochain livre que j'écrirai, je me sens complètement nu, sans défense, très vulnérable, très fragile. Et à ce moment-là, je me dis que si je devais vivre sans me protéger par l'édification d'un livre que j'écris, ce serait difficile.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Éric Reynard, dans une interview de 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez cité Edgar Morin, cette phrase, « Face aux incertitudes du monde contemporain, la seule issue possible est de vivre poétiquement. » Comment y arriver?
Eh bien, en se connectant le plus souvent possible
à
la beauté.
Oui, à la beauté.
En regardant autour de soi, en étant... attentif.
Vous l'êtes?
J'essaie de l'être, j'essaie de regarder beaucoup. Parfois, on oublie de regarder les autres dans le métro, de se nourrir de la beauté, de la diversité, de ce qui nous entoure, plutôt que d'être sur son téléphone, écouter les conversations. C'est ça, c'est vraiment essayer de vivre... le plus profondément possible, le plus souvent possible, cette fraternité
c'est drôle que
qui est là, à portée de main. Et puis, essayer d'éprouver le plus de sensations possibles, ça, j'y pense. C'est-à-dire, parfois, on peut se glisser dans une forme d'automatisme de la vie et voilà.
C'est amusant que vous parliez de ça, parce que ça semble à l'opposé de ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé à Paris, où vous étiez écrasé par le trop-plein de culture, le trop-plein de beauté, et que vous êtes isolé totalement. Donc vous n'étiez pas du tout du genre de belle amie.
Non, mais c'est vrai que pour pouvoir me croire en moi comme l'écrivain que je voulais devenir, je me suis isolé. Je pense que j'étais trop fragile, j'avais trop de complexes, venant de là où je venais, c'est-à-dire Clichy-sous-Bois dans un premier temps, puis un grand lotissement de banlieue à 40 km de Paris. J'avais une forme de... Enfin, je craignais qu'on plaque sur ma personne une forme d'illégitimité. Et pour pouvoir écrire, je me suis isolé. C'est un pli que j'ai pris, et je pense que... ça m'aurait détruit si je m'étais fondu tout de suite, je ne sais pas, si je m'étais confronté aux autres trop tôt. Je pense que j'aurais senti mes insuffisances. J'avais besoin de plus de temps pour lire, pour me construire, et puis pour prendre confiance en moi. Et donc, les premiers livres que j'ai écrits, c'est un peu moins vrai maintenant, mais je les ai écrits en étant complètement isolé.
Demi-sommeil.
Sans fréquenter le milieu littéraire, comme si j'avais besoin de me sentir unique, comme si j'avais besoin de pouvoir me dire que j'étais différent des autres écrivains et que j'allais écrire des livres différents. Et pour ce faire, il fallait que je sois seul.
Bon, alors là, j'ai cité demi-sommeil, mais justement, je voudrais qu'on parle de sommeil, puisque dans L'Imparfait que vous venez de publier, à un moment, vous faites un rêve, ou plutôt un cauchemar, dans lequel vous brisez le sexe de l'hermaphrodite du Bernin. Et j'y pense maintenant, puisque vous venez de dire que vous aviez peur qu'on plaque une illégitimité sur vous. Et à ce moment-là, vous vous voyez déjà dans les journaux italiens, et on dit « Un écrivain de seconde zone a brisé le sexe de l'hermaphrodite endormi du Bernin ». Ça, c'est une peur que vous avez, d'être qualifié d'écrivain de seconde zone ?
Certains me qualifient d'écrivain de seconde zone, mes détracteurs, mes ennemis.
Parce que tout le monde n'en a pas.
Et si... Alors, il semblerait que je sois un écrivain assez clivant, je ne sais pas pourquoi. Sans doute en raison de cet isolement dont on vient de parler, qui peut être pris pour de l'arrogance ou une forme de prétention, ce n'est pas le cas. Puisqu'au départ, c'était vraiment parce que j'avais des complexes et que je me sentais trop fragile pour aller me confronter aux autres écrivains et à leur aplomb, peut-être, et à leur diplôme de normal sup et tout ça. Et bon, bref. Et moi, j'aime ce recours à l'autodérision. Je pense que c'est important. Je prends mon art, la littérature, et ce que je fais très au sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. Donc, ça vient assez naturellement dans mes livres, l'autodérision ou la description de ma personne comme un anti-héros risible. Et là, dans ce rêve, c'est ce que je me suis amusé à faire. Il y a un ami qui m'a dit que ça l'avait blessé, que je me décrive moi-même comme ça.
C'est un vrai ami.
Ça, c'est un vrai ami. Je dis, mais non, c'est drôle. Il faut pouvoir se tourner en dérision.
Tout d'abord, il s'agit d'aménager le sanctuaire de Saint-Pierre. Au-dessus de l'autel qui recouvre le tombeau de l'apôtre, le Bernin dresse son grand baldaquin, avec quatre colonnes torses, élevant à près de 30 mètres du sol un appareil complexe de volutes, de statues et de draperies de bronze. Le Bernin impose un style. Il cristallise les tendances contemporaines vers la complication ornementale, le choix de courbes et de contre-courbes, les figures vêtues d'étoffes claquant au vent, l'art baroque a désormais son chantre. Ce sont ensuite, autour de ce baldaquin, les pylônes de la coupole qu'il faut mettre au ton nouveau. Sur l'architecture de Bramante, un habillage luxuriant est plaqué. Balcon, portique fin en assemblage de marbre coloré, statue gigantesque. À la rigueur des lignes et des proportions, succède l'apparat pittoresque.
Max-Paul Fouché, que tout le monde a évidemment reconnu en 1961 sur l'ORTF. Éric Reinhardt, vous publiez L'Imparfait chez Stock, consacré à votre nuit au musée de la Galerie Borghese, je le prononce à la française, à Rome, avec entre autres L'Hermaphrodite endormie du Bernin. Alors, le titre L'Imparfait, vous pensez que cette sculpture est imparfaite ou au contraire que l'hermaphrodite est bien plus que parfait ?
Mais l'hermaphrodite est bien plus que parfait.
Ah oui.
Et celles et ceux qui liront le livre découvriront que l'imparfait n'est pas hermaphrodite.
Avez-vous réellement en votre possession une photo du méfait que vous avez commis dans ce musée? Un méfait impliquant une couette.
J'ai pas réfléchi à la question, à la réponse que je devrais donner à cette. D'après vous, Eva, est-ce que j'ai cette photo?
Oui, je pense. Sans aucune hésitation.
Ça me plaît, ça. Alors parlons de ce forfait, peut-être, non?
Ce forfait, oui, mais alors, vous avez eu. Vous vouliez partager la couche de l'hermaphrodite sous une couette, mais vous avez eu l'idée, je dois le dire pour les auditeurs, d'entremêler un récit de votre rencontre avec la sculpture et un conte fantastique où l'hermaphrodite est personnifié. Il y a trois personnages dans ce conte: Gloria, une chanteuse, ainsi qu'un tandem d'amis depuis Envelay, Emmanuel, psychanalyste, et Bruno, dentiste.
Voilà.
À qui vous vouliez en faire baver parce que vous détestiez les dentistes jusqu'à ce que vous rencontriez le vôtre, qui est un chic type apparemment.
Un très chic type, en effet. Oui, mon livre entremêle le récit de ma nuit dans la Galleria Borghese et un conte fantastique qui met en scène, aujourd'hui, Hermaphrodite, c'est-à-dire le fils d'Hermès et Aphrodite. Pas une personne intersexe, je ne me le serais pas autorisé, je n'ai pas à me mettre à la place d'un intersexe et raconter ce qu'un intersexe pourrait vivre aujourd'hui dans notre monde.
Vous pensez qu'on ne peut vraiment pas tout raconter dans la fiction?
En tout cas, jamais je me serais permis de faire ça.
Mais pourquoi? Vous êtes très politiquement correct?
Non, mais en tout cas, ça ne m'intéressait pas je le dis au passage, mais le sujet n'était pas de mettre en scène un intersexe, mais un personnage mythologique, en l'occurrence Hermaphrodite, parce que je souhaitais donner un prolongement au chant d'Ovide.
Que vous aviez avec vous.
Et que j'avais avec moi dans le musée. Donc cette fiction raconte la rencontre entre un homme qui se trouve être hanté depuis l'enfance par la sculpture d'Hermaphrodite du Louvre, qu'il voit depuis qu'il est enfant. Ses parents l'emmènent au Louvre. Il est véritablement hanté par cette sculpture. Il en rêve tous les 3 ou 4 ans. Et il se dit que peut-être un jour, il rencontrera dans sa vie, cet être, Hermaphrodite.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de l'Hermaphrodite du Louvre ? Et des mouvements qu'il y eut entre celui de Rome et celui de Paris.
Alors, il se trouve qu'en effet, il y a deux hermaphrodites.
Et 7 en tout, d'ailleurs, dans le monde.
Alors, il y en a 7 en tout dans le monde, mais ces deux-là fonctionnaient par paire. Elles étaient disposées par les Romains de part et d'autre d'une pièce, les deux répliques identiques, afin qu'on puisse voir l'hermaphrodite des deux côtés. Les Borghese possédaient ces deux répliques. Napoléon en a acheté une, celle avec le matelas du Bernin, qui est un matelas absolument somptueux. Et il a acheté cette œuvre avec beaucoup, beaucoup d'autres antiques pour constituer les collections du musée du Louvre, sous la direction de Vivant Denon, qui est un écrivain que j'adore par ailleurs. Et les Borghese se sont retrouvés complètement démunis de leur trésor, et ils ont remonté des caves quelques autres œuvres qu'ils avaient, dont la deuxième hermaphrodite, dont le matelas est nettement moins intéressant, puisqu'il ne s'agit que d'un drap froissé, fait par Andrea Bergondi, à la même époque que le matelas du Bernin. Et les Borghese ont mis à la place de l'hermaphrodite du Bernin partie au Louvre, celle dont le matelas a été fait par Bergondi, et l'ont mis contre un mur. Enfin, d'ailleurs, l'hermaphrodite dont le matelas a été sculpté par le Bernin était déjà contre un mur. Hypocrisie pontificale, puisque, bien évidemment, l'intérêt de cette sculpture est qu'on puisse en faire le tour pour que le trouble qu'immanquablement cette sculpture doit provoquer chez le regardeur puisse agir. Que ce trouble se manifeste par de la stupeur, de la surprise, de l'attirance, de la répulsion, ce trouble, il existe.
Une érection nous est-elle cachée quelque part?
Alors, une érection nous est cachée puisqu'il se trouve que chez les Borghese,
voilà, merci.
À la Galleria Borghèse, il y avait une seconde sculpture d'hermaphrodite, verticale cette fois-ci, en érection, et qui était donc dans la salle même où se trouve aujourd'hui l'hermaphrodite, cachée dans une armoire. Dans l'embrasure d'une fenêtre, il y avait un peu comme l'origine du monde de Courbet qui était chez Lacan, derrière un panneau de bois. Il y avait un panneau de bois, on ouvrait le panneau de bois, et là, il y avait une hermaphrodite en érection. Il se trouve que Napoléon l'a aussi achetée, mais cette sculpture, depuis lors, c'est-à-dire depuis 1808, se trouvait dans les réserves du Louvre. Je trouve ça vraiment dommage. Alors, c'est peut-être pas le moment d'embêter le Louvre avec ce genre de demande.
En effet.
Mais ce serait pas mal que les deux hermaphrodites, celle du Bernin et l'hermaphrodite en érection, soient de nouveau réunies comme elles l'étaient par le passé.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Éric Reynard, vous aimez entremêler fiction et réel. Vous le faites dans L'Imparfait, que vous publiez chez Stock. Et là, on entend le morceau Porcelaine sur l'album Play de Moby, sorti en 99, qu'écoute un des personnages de votre fiction et que vous écoutiez chaque matin quand vous écriviez votre second roman, Le Moral des Ménages. Vous le trouvez mental et envoûtant. Et puis, un de vos personnages, Bruno, dit que les gens ne supportent pas le silence parce qu'ils les confrontent à leur vie intérieure et que cette solitude avec eux-mêmes leur est insoutenable. Et donc, comme l'écriture consiste quand même vraiment à être seul avec soi-même, je voulais savoir quel rapport vous entreteniez avec la solitude et avec le fait d'être avec vous-même.
Alors, je n'ai aucun problème avec la solitude.
C'est rare.
J'aime être seul. J'aime être aussi accompagné. Mais quand j'écris à la campagne, et j'ai écrit ce livre à la campagne, je suis seul les deux tiers de la semaine et je suis vraiment très heureux.
Alors il y a des rendez-vous galants, des rencarts parallèles dans les deux récits, puisque vous vous préparez avec un costume spécial, comme pour un rendez-vous galant pour votre nuit au musée. Et en parallèle, on voit les rendez-vous de Bruno qui cherche l'amour, qui en parle à sa meilleure amie Emmanuelle, et qui a notamment rendez-vous à un moment avec une femme insupportable et très prétentieuse qui dit toujours « Moi je suis une femme qui... » blablabla, et qui l'accuse ensuite de pénétration non consentie parce qu'elle lui a parlé de son désir d'enfant, a fait l'amour avec elle en consentant absolument, mais il n'a pas voulu la revoir. Alors, je voulais savoir, comme il est beaucoup question de viol dans ce livre, notamment à cause des sculptures qu'on peut trouver à la galerie Borghèse, puisque
il y en a trois.
Bah oui, dans la mythologie, ça se produit quand même assez souvent. C'est souvent le même coco qui est à l'origine de ces méfaits, d'ailleurs.
Sauf que là, il y a un viol perpétré par une femme, puisque Hermaphrodite s'est trouvé être transformé suite au... Donc c'était un garçon, Hermaphrodite. Il a été violé par la nymphe Salmacie. Et dans l'étang, elle l'étreint, et puis elle forme un vœu exaucé par les vœux, par les dieux, que puisqu'elle ne veut pas, puisque ce garçon ne veut pas se laisser violer, et bien qu'il ne forme plus à l'avenir qu'une seule et même personne, donc les deux sexes réunis.
Merci de rétablir l'équilibre.
Voilà. Mais donc les deux autres viols de la Galeria Borghèse, c'est Daphné et Apollon et l'enlèvement de Proserpine par Pluton. Et je me suis amusé à faire miroiter cette situation qui peut entrer en résonance avec des choses d'actualité ou des choses qu'on peut entendre et, comme ça, de cet homme qui prend peur à tort d'être accusé de viol par une femme alors qu'il n'a rien fait.
Est-ce que ça vous préoccupe, ce genre de sujet ?
Non, mais j'ai entendu des histoires comme ça, j'entends des hommes parler de ça, et notamment un ami proche qui s'était mis à avoir peur. Et moi, j'aime bien que mes livres soient comme ça, une sorte de caisse de résonance et qu'ils puissent être traversés par des thématiques contemporaines. Moi, ce que je pense, c'est que le pourcentage d'accusations de viol non commis, je pense, c'est très, 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 très minoritaire, voire inexistant, et que c'est vraiment un fantasme d'homme réactionnaire que de penser que si on ouvre la porte, eh bien, on peut se trouver avec une accusation de viol. Et puis, je dirais même que moi, qui suis un fervent adepte de MeToo, je pense que ça ne nous fait pas de mal à nous, les hommes, et ça ne fait pas de mal aux hommes, que éventuellement avoir un peu peur dans certaines circonstances, dans certaines situations, après peut-être s'être pas tout à fait aussi bien comporté qu'on aurait dû, même si on n'a rien fait de mal. Mais si la femme peut laisser comme ça entrevoir la possibilité d'une vengeance rendue publique, etc., eh bien, je pense qu'on ne l'a pas volée après des millénaires de domination, et cette domination continuant de se perpétuer d'ailleurs. Donc je me suis un peu amusé avec ce chapitre où cette femme est à la fois complètement ridicule, et ça m'a amusé, et je pense pouvoir être en situation en tant qu'homme, ayant revendiqué et tellement montré sa misandrie dans tellement de livres, et mis en scène dans L'amour et les forêts ou dans Sarah, Suzanne et l'écrivain, mis en scène des hommes absolument horribles.
Des femmes qui étaient vos avatars.
Là, je me suis offert ce petit plaisir de mettre en scène une femme ridicule.
Vous dites que vous fantasmez aussi sur l'idée d'incarner une femme, d'en être une. Ce livre parle aussi de la jouissance féminine, vous aimeriez la connaître ?
Bien évidemment, ça c'est évident. L'amour et les forêts, Sarah, Suzanne et l'écrivain, sont des livres dont les personnages principaux sont des femmes. Et vraiment, je fais vivre au lecteur de l'intérieur ce que traversent et ce que vivent ces femmes, Bénédicte Ombrodin dans L'amour et les forêts, Sarah et Suzanne, au plus près de leur corps, de leurs sensations, de leurs émotions. Donc vraiment, au présent de ce qu'elles vivent et des tourments qu'elles endurent. Et jamais, quand j'ai écrit ces livres, je me suis dit « Attention, tu es un homme, comment réagirait une femme, qu'est-ce qu'elle ferait dans telle situation ?» Pas du tout. En fait, à chaque fois, je m'abandonne à ce que je suis, à ma sensibilité, à mon empathie, à ce que je comprends de ce que vivent ces femmes d'après les récits qu'on m'en a fait, et puis à partir du désir qui est apparu d'écrire ces livres. Et donc, je me mets très facilement à la place des femmes dans mes livres. Il est vrai que, à l'adolescence, je me suis senti beaucoup plus proche des femmes. Je me sentais, je le dis d'ailleurs dans Le Moral des Ménages, je détestais les hommes et leurs passions dégradantes, et je revendiquais, j'assumais mon côté féminin et hypersensible. J'avais aucun succès avec les femmes, mais en revanche, elles aimaient me parler parce que je savais les écouter, je savais les conseiller, et donc les femmes dont j'étais amoureux, je devenais leur confident. Alors qu'elles étaient amoureuses d'autres garçons. Ça s'est arrangé plus tard, mais ce côté proche des femmes, disons, est apparu dès l'adolescence.
Est-ce que vous voulez nous dire un mot des deux femmes principales de votre récit ? Et d'ailleurs, un petit mot sur une femme réelle qui apparaît dans le livre, qui est Anastasia, une princesse romaine qui est absolument glaciale avec vous. Je voulais savoir si elle existait et si elle s'était reconnue.
Alors, elle existe, c'est l'assistante de la directrice.
Vous ne l'épargnez pas ?
Je ne l'épargne pas, mais je ne m'épargne pas non plus. C'est-à-dire que je montre, alors que ce n'est pas du tout à mon avantage, le traitement qu'elle m'inflige, qui n'est pas très agréable. Donc là, on est vraiment dans un rapport de classe et de domination de classe. Donc c'est drôle parce que il y a toutes ces sculptures qui montrent la domination masculine. Mais la domination, elle est partout et elle est aussi de classe. Et il se trouve que cette femme ne me calculait absolument pas. Elle me traitait un peu comme ça. Elle avait autre chose à faire et visiblement, ça l'ennuyait d'être là à m'accueillir à la Galeria Borghese. Et elle n'avait pas réalisé. Pourtant, le programme, il était clair. Un écrivain vient à la Galeria Borghese pour écrire le récit de sa nuit. Elle y est, donc elle peut se dire qu'elle pourrait faire attention, mais pas du tout. Et donc, j'ai découvert après coup que cette femme était une grande aristocrate romaine, une princesse. Elle a une trentaine d'années, très belle, comme ça, et très, très hautaine. Et donc, je mets en scène les choses telles qu'elles se sont passées. Mais il est vrai On parlait du Xanax que j'ai pris lorsque les portes de la Galleria Borghese se sont refermées. L'une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce Xanax était que, en effet, je ne me suis pas senti très bien accueilli par cette princesse dans ce musée. Et mes complexes de classe sont toujours prompts à rejaillir en moi pour m'assombrir. Et j'aurais préféré qu'elle m'accueille en ces lieux avec tous les honneurs qu'on peut réserver à un écrivain français.
Je crois qu'on leur réserve plus beaucoup d'honneurs.
Pas du tout. Et donc, j'espère faire rire mes lecteurs avec ces péripéties.
Et un petit mot alors sur deux femmes nobles, mais nobles de cœur, qui sont Gloria et qui sont Emmanuel. Je crois que c'est des personnages auxquels vous êtes attachés.
Oui, Emmanuel, c'est la meilleure amie de Bruno. J'avais envie... Il se trouve que dans le champ d'Ovid, il y a une suite possible qui est contenue dans le champ. Et j'avais envie de donner une suite à ce champ d'Ovid, donc qui raconte la transformation d'hermaphrodite en être hybride. Et donc Emmanuel, c'est vraiment le vecteur dans le monde contemporain. Aujourd'hui, de la suite de ce conte. Donc, c'est vraiment comme un conte fantastique. Elle est psychanalyste et elle apprend lors d'une séance que l'une de ses patientes est donc le fils d'Hermès et d'Aphrodite. Et comme elle sait très bien que c'est quel est le rêve qui hante l'imaginaire de son meilleur ami Bruno depuis son enfance, à savoir ces statues du musée du Louvre, elle sait qu'elle doit les mettre en relation l'un avec l'autre.
Au prix d'un
D'autant
sacrifice.
Que Gloria, en tant qu'être hybride, possédant les deux sexes, une apparence féminine, mais le sexe masculin et féminin, est rejetée à la fois par les hommes et par les femmes, et donc extrêmement malheureuse dans sa vie amoureuse et sentimentale. Et Emmanuel, ne pouvant pas, refusant de trahir le secret médical, eh bien, se sacrifie et disparaît.
Mais n'en dites pas trop, vous êtes en train de dévoiler toute l'intrigue.
Non, parce que ça arrive assez vite.
Oh bah, non.
Bon. This is what you get.
This is what you get when you mess with love.
Morceau culte comme standard ce soir, Karma Police de Radiohead dans la 20e heure.
Eva Bester, la 20e heure sur France Inter.
You don't recognize me anymore, there's things you can't see anymore. I wanna make it right, I wanna make it right. They won't understand it, sometimes you just can't stand me. Say things that make you angry, that make you throw a tantrum. 2 p.m., think about it, can't seem to forget about it. Last night got really rowdy, I think we should talk about it. I can be your elephant, I remember everything. I'll be your hello heaven shit, my under your spell again.
Eric Reinhardt, qu'est-ce qu'on entend? Elephant.
Zero.
Seven.
70 Shake.
Shake. Sur l'album Petrichor.
Voilà, j'ai beaucoup écouté ça quand j'écrivais L'Imparfait.
Vous êtes un clubbeur ?
J'adore me donner de l'énergie le matin avant d'écrire en écoutant de la musique.
Donc vous écoutez de la musique avant d'écrire
ouais,
ou pendant ?
Oui, avant. Quand je prends ma douche, quand je prends mon café, Fontaine d'essai, ça, des choses qui vraiment me donnent de l'énergie.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous vouliez parler du cinéma La Clé qui se trouve à Paris dans le 5e arrondissement.
Oui, c'est un cinéma qui a failli disparaître. C'est un cinéma historique qui a été créé dans les années 70, qui était un lieu alternatif, notamment centré sur le documentaire, et qui a failli fermer parce que le propriétaire des murs voulait le vendre à un promoteur immobilier. Et puis le cinéma a été occupé pendant des années par un collectif, et ce collectif a fini par racheter le cinéma grâce à 5000 donatoris. C'est porté par toute la cinéphilie planétaire, avec le soutien de Senchiama, de Lynch, de Carax, de Triette, de Palcapadia, Tarantino, Scorsese, etc. Et donc, ils ont quand même réuni, avec un emprunt à la banque, 2,8 millions d'euros pour acheter le cinéma. Il y a eu un an et demi de travaux. Le cinéma rouvre le 14 janvier. Donc la semaine prochaine, et c'est un cinéma qui est animé par un collectif de jeunes trentenaires, très engagés, très idéalistes, de très belles personnes, très cultivées. C'est un lieu important, on en a besoin, où on pense les choses un peu différemment. Donc il faut aller sur le site de La Clé. C'est un cinéma avec prix libre. Et donc c'est vraiment un collectif, c'est une direction horizontale. Ça commence le 14 janvier donc par un film saoudien, et puis soudanais pardon. Et puis le 15, il y a une carte blanche de Céline Sciamma. Et puis le 16, il y a ce
enfin
film
non mais vous
j'adore.
Êtes italien pardon.
Pardon.
Vous êtes plus italien que moi.
Comment on dit ?
Bah non mais en fait je l'ai dit à la française.
Et donc le 16, il y a Ma vie, ma gueule de Sophie Filière.
Ah, Sophie Filière, c'était formidable.
Mais vraiment,
elle nous manque.
Je la connaissais un petit peu. Oh. J'aimais énormément son cinéma.
Elle était très
J'ai
drôle.
Vu deux fois Ma vie, ma gueule. Et la deuxième fois, je l'ai encore plus aimé que la première. Il se trouve que le film sera projeté en présence de ses enfants, Agathe et Adam Bonitzer, qui ont fait le montage du film. Le 16, et il faut aller sur le site de La Clé pour voir le programme, et il faut y aller le 14 pour faire la fête. C'est un lieu important qui s'ouvre.
C'est un film très très drôle. Merci beaucoup Eric Reinhardt.
Merci Eva.
L'Imparfait paraîtra le 7 janvier chez Stock dans la collection Manuit au musée. Vous serez en signature le 15 janvier à la librairie des Abbesses à Paris, le 29 janvier à la librairie Le Square à Grenoble, le 5 février à Port-Vendres à la librairie Oxymore, le 14 février à la Maison de la Poésie à Paris, le 4 mars au musée des Beaux-Arts de Nancy. Toutes les autres dates sont à retrouver sur le site des éditions Stock. Cette émission a été réalisée par Étienne Bertin, préparée par Céline Villegas, Alexandra Conet et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Guillaume Roux.